De retour à On a des choses à dire, une présentation de Luciedel Parizeau cabinet d'assurance Meubles André Beaulieu et le magazine Contact Affaires.
Bon, on va oublier Trump, on va prendre un petit coup pour se se remettre de tout ça. On reçoit maintenant le copropriétaire de la distillerie, les subversifs qui, il y a un an à peu près, là, de presque jour pour jour, dans ces eaux-ci, en tout cas, on recevait l'équipe pour parler du projet de s'établir à Sorel-Tracy. C'est maintenant chose faite. Depuis le mois d'octobre, elle est opérationnelle. Et on va donc accueillir Fernando Balthazar pour nous en parler de tout ce qu'on a maintenant en opération et ce qu'on prévoit faire avec tout ça. Fernando Balthazar, bonjour.
Bonjour.
Approchez-vous, qu'on vous entende bien.
Il a coulé beaucoup de gin sous les ponts depuis.
J'espère qu'on a pas jeté un sur le pont.
Depuis votre dernière entrevue, là, il y a eu toute une transformation à faire à l'église Marie Auxiliatrice pour accueillir vos équipements.
Oui, mais dans le fond, la transformation est pas si grande là quand on regarde l'extérieur de l'église. Elle n'a pas changé.
À part la grande porte à l'arrière.
Après la grande porte en arrière, évidemment, on n'a pas le choix d'en faire une parce qu'il faut quand même pouvoir recevoir les camions là. Donc, et puis à l'intérieur, l'échiclore, c'est évidemment ça. C'est gros là quand on doit chicler l'église au complet là. Donc mais on n'avait pas le choix de le faire donc. Mais sinon l'église en tant que telle a pas mal gardé le même aspect.
Vous avez gardé les bancs, vous avez gardé non.
Non, ça c'est tout dans le fond, c'est nous quand on est arrivé là, il y avait déjà fait leur vente, okay. Je sais pas si on appelle ça une vente de garage, mais en tout cas, il a fait leur vente de garage d'église là, donc il y a vraiment un marché hein pour
ben oui,
tout ce qui
c'est les antiquités.
Ouais, même les Christ là, c'est sûr qu'il y a eu une petite polémique à cause de la croix à un moment donné que on avait sorti à l'extérieur de l'église, mais dans le fond, on a sorti qu'est-ce qui est resté la croix parce que évidemment ils ont vendu le Christ.
À part de la croix.
Ouais, la croix, il la voulait pas. Et donc, c'est lui qui a pris. Il a pris le Christ qui était sur la croix, puis il a coupé la croix en deux, là. Donc, nous, il nous restait juste la moitié de la croix qu'on a mis dehors, là. Donc, mais on a mis dehors parce que c'est quand même du bois. C'était du bon bois, là. On a dit peut-être qu'il y a quelqu'un qui veut l'utiliser, là. Mais c'était pas pour le mal faire, là.
C'est... On est donc, vous occupez quelle partie de l'église?
Dans le fond.
Au complet, le...
Ça, dans le fond, là, on occupe surtout au niveau de la production, là, tout ce qu'on appelle le sous-sol de l'église, mais le sous-sol, il est quand même très grand, là, il y a quand même 11 pieds de haut, là, donc c'est plus qu'un sous-sol, là. Donc, tout ce qui est production, qui est peut-être moins beau au niveau esthétique, là, c'est tout en bas. Puis le haut de l'église, dans le fond, on c'est vraiment là, on a mis on va ce qui était l'hôtel là, dans le fond, c'est vraiment l'alambic là qui est.
Les grosses cuves là. Non.
Ouais, c'est surtout non, c'est, l'alambic c'est vraiment la machine qui nous permet de séparer l'alcool de l'eau. Donc
c'est ce qui est le plus spectaculaire.
C'est l'alambic, c'est ça. C'est qu'est-ce qui est le plus beau là. Donc ouais. Là, vraiment vu que on rentre dans l'église puis l'église est vide. Puis on voit juste l'alambic, ça prend toute sa place. Là.
Qu'est-ce que vous comptez faire du reste de l'espace? Je sais qu'il y a des événements qui vont se tenir chez vous. J'ai entendu parler d'un 5 à 7 qui devait se tenir chez vous.
Oui, mais dans le fond, le reste de l'espace, c'est pour le futur, là, mettre des barils de vieillissement, par exemple, pour les rhums, pour le whisky, pour les gin. Du gin vieilli, c'est très bon. Mais pour le moment, cet espace-là, quand on nous demande, puis c'est vraiment pour une bonne cause, mais tant qu'à pas l'utiliser, on est aussi bien de rendre pour les gens qui peuvent l'utiliser, là.
Mais vous n'avez pas nécessairement de plan ou de projet pour rendre ça un endroit...
Il y aura des visites.
De visites ou récréatif ou...
Oui, mais c'est ça. À partir du printemps, là, on a vraiment travaillé pour être prêt à la production. Donc, il reste tous les détails là pour, dans le fond, pouvoir recevoir les gens là à partir du printemps, là, avoir une petite boutique là sur place, une salle de dégustation, pouvoir faire la visite aussi de la distillerie. Puis, bon, donc, vraiment mettre quelque chose à que les gens vont pouvoir venir voir la distillerie, mais en même temps, peut-être un peu plus que ça. Là, donc,
parce que ça qui est de nouveau aussi, puis qui est de votre côté, le changement qui a été fait, la loi, vous permet de vendre vos produits directement sur place, ce qui n'était pas nécessairement le cas avant.
C'est exact. Là on a depuis presque 4 mois maintenant, on a le droit de vendre sur place. Mais il y a des petites conditions là-dedans. Là, faut que le produit soit listé à la SAQ. Donc, un produit qui est pas listé à la SAQ ne pourra pas être vendu sur place. Ça, c'est un peu plate parce que on a aimé ça faire des produits plus exclusifs ou des produits qui ont vraiment plus petite quantité qui auraient été vendus juste sur place sans majoration. Là. Donc, là, les produits qu'on vend sur place, on peut pas le vendre moins cher qu'à la SAQ. Puis en plus, il faut qu'il soit listé. Puis jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas la majoration que la SAQ va prendre. Donc, il y a beaucoup de distilleries qui ont déjà vendu des produits. Donc, il faut remettre un rapport des ventes à chaque 3 mois. Puis le rapport des ventes, après ça, il nous envoie une facture de la majoration de la SAQ. Là. Majoration qui comprend les taxes, les impôts, tout ça. Mais jusqu'à date, on ne sait pas combien. Donc, s'ils prennent full majoration comme en ce moment, là, donc ça donne pas grand-chose de vendre un produit sur place. Là. On pourra pas le vendre moins cher, puis en plus, on n'aura pas plus d'argent. Donc, donc de ce côté-là, on est encore un peu... on sait pas encore.
Là, vous parliez de possibilités qui deviennent impossibles de faire de l'exploration de nouveaux produits. C'est donc que vous avez des plans de développer d'autres produits?
Oui, c'est ça. Ça, on travaille toujours là sur les prochains produits qu'on pourrait mettre sur le marché. Évidemment, il faut toujours tenir compte du marché de la SAQ. Puis, à la SAQ, si on vend pas au moins 5 000 bouteilles par année, là, sortir un produit, c'est pas rentable. Donc, la marge de profit est très mince. Donc, c'est souvent des produits à gros volume. Là.
C'est quoi l'autre option, sinon? Vous tentez un nouveau produit, est-ce qu'on est capable de le vendre, de le mettre à la disposition?
Pour l'instant, comme je dis, il y a quand même beaucoup de choses qui sont vraiment améliorées au niveau de la SAQ. Ouais. C'est surtout quand on présente un produit maintenant à la SAQ, pour les producteurs, pour les micro-distilleries, là, les producteurs d'ici, le produit, on peut le présenter n'importe quand. Ça, premièrement, c'est déjà mieux. Là, faut pas attendre un appel d'offres.
Okay.
Et puis, ça, c'est beaucoup plus rapide qu'il était. Avant, ça prenait souvent un an avant que ça soit approuvé. Puis là, maintenant, on parle des fois de 2-3 mois. Donc, c'est déjà beaucoup mieux. Mais, comme je dis, les produits, faut vraiment qu'on pense, quand on pense à un produit SAQ, tablette de SAQ, on doit penser à un produit qui est quand même à haut volume, là. Donc, les prochains produits qu'on pense faire, donc c'est un rhum, ça c'est un rhum québécois, là, donc il n'y a rien qui nous empêche de faire un rhum là, en important la mélasse. Mm-hmm. Donc, on pourrait faire un très bon rhum québécois là, à ce moment-là.
J'ai entendu dire que vous comptiez utiliser les pourtours de l'église qui sont restés encore verts pour faire de la culture.
Oui, dans le fond, c'est qu'on a dit, nous, on va prendre l'église. Puis ce qu'on veut, dans le fond, c'est que l'extérieur de l'église, ça soit les gens qui le prennent, là. Donc, que ça soit accessible, que ça soit pour eux, là. Nous, dans le fond, avoir du gazon à l'entour de l'église, il n'y a aucune utilité. Mais faire un potager, une forêt nourricière, où ce que les gens pourraient venir chercher eux-mêmes, là, des fruits, des légumes, et s'approprier, dans le fond, de l'extérieur de l'église, c'est quelque chose qu'on tient à cœur. Puis
les gens seraient libres de cultiver ce qu'ils veulent. Je pensais que c'était destiné à votre production. Le navet?
Il y a une chose qu'on veut faire pour nous, là, dans le fond, c'est la production du panais, là, sur place, là, parce que, dans le fond, on n'a pas besoin d'une quantité énorme de panais, là, annuellement. Donc, on serait capable de le cultiver sur place, là. Donc, ça, on aimerait ça avoir deux choses. Le panais, puis la baie de Genévrier. Donc, c'est deux choses qu'on aimerait avoir à l'extérieur de la distillerie. Mais tout le reste, puis qu'est-ce qu'on a fait il y a 2-3 semaines, là, dans le fond, c'est la première implantation de la forêt nourricière. Donc, avec des arbres fruitiers, des arbustes qui donnent aussi des petits fruits. Puis les potagers aussi, on avait commencé déjà au niveau du potager. Donc, dans le fond, ça va être d'ici 3 ans, là, l'extérieur de l'église, là, il va devenir, dans le fond, un potager urbain, là, une forêt.
C'est ça qui est particulier, que ce soit justement un potager. ça soit la culture urbaine. Ça, on voit pas ça régulièrement.
Non, mais je pense que de plus en plus, il y a des villes qui embarquent là-dedans. Ouais. Puis moi, j'ai regardé des plates-bandes de plus en plus qu'au lieu de mettre des fleurs, les villes, au lieu de mettre des fleurs, ils vont mettre justement des choses qui donnent quelque chose à manger. Donc, c'est... Je pense que ça s'en vient, c'est la prochaine mode.
Et à ce moment-là, les produits qui seraient faits avec du panais qui a poussé chez vous en terre sainte, là, sur les terrains d'Église, ça serait une production 100% sorelloise, des produits.
Oui, mais toujours, il reste qu'il y a des aromates, dans le cas du gin, qu'on malheureusement, on ne peut pas avoir au Québec. Là. Cardamone, ça serait très difficile à produire au Québec. Là.
Alors, en ce moment, quelle est la gamme de produits qui sont faits ici, là, chez vous?
Là, tous les produits sont faits chez nous, mais il faut dire qu'en microdistillerie, là, ça serait peut-être un peu long à expliquer, mais en microdistillerie, tout ce qui est, on appelle l'alcool neutre, l'alcool de base, des grains, souvent, là, c'est un alcool qui est fait par des méga distilleries, là, donc, qui est vraiment pas rentable, le faire, puis ça changerait pas grand-chose au goût final d'un gin, par exemple. Là. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le redistiller, cet alcool-là, ici à Sorel, là, puis on va mettre les aromates avant la distillation pour la macération. Donc, là, les gins, on peut dire que c'est vraiment un produit fait à Sorel, là, à ce niveau-là.
Le réduit à l'érable, c'est comme ça que vous appelez? Comment est-ce que vous l'appelez?
Oui, le réduit à l'érable, dans le fond, c'est vraiment le cabane à sucre familial. Hein. C'est prendre les réduits chauds dans l'évaporateur, puis quand ils disaient « Veux-tu un petit réduit, là? » Mais il y avait toujours un peu d'alcool, puis souvent, c'était le gin qui était utilisé, là. Okay. Dans le temps, c'était le Decaper, là, aujourd'hui, mais avec tous les gins qu'il y a.
Je sais que votre crème de menthe est très populaire aussi. Quel est le produit là, qui a la faveur du public le plus, là?
Ben, les gins, c'est sûr qu'il y a une mode. Il y a vraiment un engouement phénoménal pour les gins au Québec. Il y a 8 ans, on était les premiers gins micro-distillés au Québec, puis aujourd'hui, on en parle d'une trentaine.
Ouais.
Donc, on était la première micro-distillerie, puis aujourd'hui, il y en a une quarantaine. Donc, vraiment, là, il y a une explosion de produits faits au Québec. Là.
On est très favorable aux micro-brasseries. Il y a la route des micro-brasseries. Là. On comprend qu'il y a encore... puis on verra peut-être avec le nouveau gouvernement si on est capable d'assouplir encore plus les lois. Il y a encore un peu de travail à faire, mais éventuellement, on se dirige bel et bien vers une route des micro-distilleries, dans le fond.
Oui, vraiment, là, ça va être ça. Là. Il va en avoir une route des micro-distilleries, ça, je suis certain. C'est sûr que le Québec, c'est un grand territoire.
Moi, je suis en Gaspésie, vous savez, en Gaspésie.
Oui, il y en a au Saguenay, il y en a en Gaspésie, il y en a à Rimouski. Donc, vraiment, là, c'est lui qui veut faire la route, mais il va découvrir le Québec, là, parce que on est un peu partout, là.
Ça en rappellera peut-être plus après, là, mais.
Le moyen de boire de façon
raisonnable. Avec sa modération, c'est ça.
Voyons donc.
Puis pour répondre, la crème de menthe aussi, il y a vraiment un engouement. On avait sorti la crème de menthe en disant, la crème de menthe, dans le fond, c'était un petit peu à contre-courant, là, mais c'était aussi les gins, il y a 8 ans, c'était un petit peu à contre-courant. Les gins, ils avaient été délaissés aussi, puis la crème de menthe, ça avait été délaissé aussi chez les jeunes. Puis on s'est dit, mais en mettant une crème de menthe naturelle, au lieu de crème de menthe artificielle, comme on voit souvent.
La vieille bouteille verte, là.
Ouais, mais c'est ça, qui s'est fait avec des arômes, puis c'est fait avec des colorants. Donc, on s'est dit, ben les jeunes, puis on voit que la réponse, elle est excellente, là. Il y a un engouement, là, vraiment, qui commence, là, à ce niveau-là.
Fernando Balthazar, merci beaucoup d'être passé à vous. Nous parler de ce beau projet qui se poursuit, qui va faire sûrement attirer beaucoup les gens dans la région.
Et une belle fierté de voir la vanne de la SAC reculer derrière l'église. On pourrait croire une livraison de vin de messe, mais quand on sait que c'est des produits qui partent de Sorel et qui sont distribués à la grandeur de la province dans les sociétés des alcools du Québec, belle fierté.
Merci à vous autres, puis merci à toutes les gens de Sorel aussi pour l'accueil, là.
Merci beaucoup à Fernando Balthazar des Subversifs. Merci également aussi à nos autres invités, Hubert Vallée, qui est venu nous démêler un petit peu l'impact des élections de mi-mandat de Donald Trump. Et puis, encore une fois, un coup de chapeau à notre ex-collègue Yannick Lévesque, qui se retrouve président de la Ligue Midget 3. Monsieur Martin, merci aussi.
Monsieur Lemay, merci à toi.
On se dit à la semaine prochaine.
Oui, bye-bye.
Au revoir tout le monde.